Vous écoutez
RMC.
J'ai vraiment l'impression que le crochet droit de Brahim Asloum arrivé, il est fort bien protégé.
Asloum a gagné ce match, il a gagné tous les rounds.
J'y vais sur le ring avec la jambe mal au plat et une main attachée derrière.
Estelle Mosselli, elle est championne olympique.
Quitte à prendre une branlée, j'y vais.
RMC. Jeux Olympiques de Paris 2024. J-100.
Et à J-100, on accueille une championne olympique. C'était en 2016 à Rio. Ouais. Elle avait fait rêver la France, devenant la première française championne olympique de boxe. Estelle Mosselli est avec nous aujourd'hui. Bonjour
ça
Estelle.
Bonjour. Salut. Ça va très bien.
Bienvenue.
Merci de m'accueillir.
On est heureux de t'accueillir, tout simplement.
Bah, c'est très gentil. Je suis ravi d'être avec vous.
Tu es dans l'émission qui aime la boxe. Voilà. Parce que Vincent a boxé, comme tu viens
ouais,
d'entendre.
J'ai boxé. Toi, Estelle Mosselli, tu t'évites de dire que j'ai boxé. Et moi, je passais mon temps à plaquer les mecs sur le terrain. Sur le ring.
Sur le ring.
Sur le terrain, bien sûr, mais comme j'ai fait les deux. Donc
tu as boxé sur le terrain également, Vincent?
Parfois. Voilà. C'était moi autorisé.
Estelle qui a tout gagné en boxe. Championne olympique, donc en 2016, championne du monde la même année. Là, c'était dans les rangs amateurs. Et puis ensuite, après les Jeux, tu es passée professionnelle. Et là aussi, tu es devenue championne du monde. Et là, tu reviens donc à la boxe olympique. Ce qu'on disait, la boxe amateur qui a plus vraiment de. La connotation est plus vraiment, oui, n'existe plus vraiment.
C'est pareil. Boxe olympique, boxe amateur. Je reviens pour avoir un deuxième titre olympique. Je me dis que ce serait pas mal repartir
à la maison,
d'avoir ça à nouveau, de revivre ça à nouveau, et puis avec tout ce que ça comprend, les Jeux Olympiques, le fait d'être au sein d'une équipe très différente du milieu professionnel, hein, complètement différent, mais c'est ce qui m'a le fait le plus vibrer et qui m'a le plus apporté.
Oui, parce que quand tu as été championne du monde chez les pros, t'as pas eu la même émotion que
lorsque non, c'est pas pareil. Et je suis pas arrivée à ma plus grande victoire, très certainement chez les professionnels. Hein. On parle de réunification de ceinture en pro pour vraiment être au summum. Mais les choses sont très différentes. C'est beaucoup de sport business, c'est des contrats signés à l'avance, des arrangements pour boxer tel boxeur. Bon, pour moi, la boxe olympique, c'est juste le sport. On vient, meilleur ou pas meilleur, on peut rencontrer le plus nul, le meilleur, tirage au sort, et allez, on y va, on fait le tour, ce qui s'apparente à un tournoi, un championnat du monde s'apparente à un tournoi, on est susceptible de rencontrer n'importe qui, et pour moi, ouais, c'est beaucoup plus sportif.
Et c'est facile de faire la bascule boxe pro, boxe amateur, les règles, cardio, la condition
physique. C'est très dur. C'est très dur.
Qu'est-ce qui est dur en détail?
Ce qui est très dur, c'est de démarrer au quart de tour en boxe olympique. En pro, on a le temps, on a 10 rounds. En boxe olympique, on n'a pas le temps.
Il faut scorer tout de suite.
Ah, tout de suite, c'est terrible.
C'est asphyxie, quoi. Quand tu n'es plus habitué,
complètement. Complètement. Ouais. Bah, déjà, le temps, quand on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas pris le pas là-dessus, en fait, le temps qu'on se réveille, le combat est terminé.
Eh oui, oui.
3x3, ça va très vite. Et en plus de ça, ça va, comme je l'ai dit, très vite. Donc il faut que le cœur assume la cadence.
Tu as senti la boxe féminine progresser énormément? Il y a beaucoup plus de monde maintenant dans ta catégorie qu'il y avait autrefois, qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans.
Alors c'est particulier parce que les personnes se sont un peu étalées. Il y a plus de KT chez les femmes. Moi, quand j'ai fait les Jeux Olympiques en 2016, il n'y avait que 3 KT. Maintenant, il y en a 6. Donc, le niveau a augmenté, oui, mais il y a plus de KT. Donc, finalement, il n'y a pas plus de monde dans ma catégorie.
D'accord. C'est-à-dire que maintenant, c'est réduit, quoi. À 3 kilos près, tu n'es plus dans la même catégorie.
Exactement.
C'est
quand même 57, il y a.
Oui, on perd les passionnés un peu là-dessus. Les catégories, on ne sait plus. Tu vois, on ne sait plus. Il y en a trop.
Il y a beaucoup de KT, mais quand on est sur les rings, on comprend que c'est bien.
Oui, je comprends. Mais des fois, tu as des catégories à 3-4 kilos. Bon, on s'y perd les crabes, quoi. Tu vois,
ouais, on s'y perd beaucoup.
On ne sait plus les mecs dans quelle catégorie ils sont, ou les filles dans quelle catégorie elles sont.
C'est surtout chez les filles. Je trouve que, oui, les filles changent beaucoup de catégories. Comme il y a moins de monde que chez les hommes, les filles ont tendance à changer pas mal de catégories. Alors, beaucoup moins dans le milieu olympique, parce que, il y a une équipe, il y a des places qui sont prises. On ne va pas prendre la place de l'autre. Mais c'est vrai que dans le milieu professionnel, par exemple, on a tendance à changer beaucoup de catégories.
Tu peux être championne du monde dans 3-4 catégories,
ouais,
maintenant c'est pas.
Complètement.
C'est plus, à l'époque, il y a 30 ans, c'était quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, surtout chez les filles, c'est quand même très,
voilà,
très jouable.
Chez les filles, c'est très jouable de changer de catégorie.
Et tu connais toutes tes concurrentes pour Paris 2024 ou ce sera surprise?
Côté asiatique, il y a des petites surprises. Il y aura des petites surprises. Il y a toujours des surprises côté asiatique de toute façon. Mais j'ai beaucoup là rodé en Europe. J'ai vu un peu ce qui se passait en Amérique latine, aux États-Unis. Bon, j'ai pas encore le côté asiatique, mais je vais l'avoir dans pas longtemps puisqu'il y a le dernier KO qui se passe en Thaïlande. et ça va être l'occasion de voir ce qui se passe juste avant lors d'un stage.
C'est très rare quand même pour un champion ou une championne de boxe d'arriver à regagner 8 ans plus tard. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, Estelle, dans l'histoire de la boxe. Souvent, les boxeurs olympiques passaient ensuite professionnels et ne revenaient jamais en arrière.
Il y a Rocky.
Rocky, il a tout fait.
Il était fort, Rocky.
Il a tout fait. Après, tu repasseras professionnel et tu reviendras pour...
Derniers Jeux Olympiques. Je repasserai professionnel, oui, mais ça va être mes derniers Jeux Olympiques parce que c'est très dur de passer d'un rythme à l'autre. Alors pourquoi ça se faisait pas? Parce que de toute façon, on n'avait pas le droit déjà.
Oui, maintenant tu peux être professionnel.
Voilà, maintenant tu gagnes de l'argent. Ça c'est que depuis 2016 chez les hommes et depuis 2021 chez les femmes.
Mais tu es limité dans le nombre de combats professionnels, c'est-à-dire si tu as plus de 15 combats ou 20 combats, tu peux plus faire les JO ou c'est pas limité?
Non, c'est pas du tout limité.
Ça veut dire que Tyson Fury, s'il veut, il fait les Jeux Olympiques.
Voilà, exactement. Mais est-ce que ça aurait du sens?
Non, c'est
pas forcément. Voilà. D'une part, déjà, c'est une très grosse prise de risque parce que ça n'a rien à voir. Les qualités physiques qu'on demande sur la boxe olympique ne sont absolument pas les mêmes qu'en boxe professionnelle. Ouais. Ça va très vite et du coup, ça joue aussi sur la boxe. Le fait de devoir délivrer des coups très rapidement, ça joue sur la forme même de notre boxe. Ouais. Et puis après, quand on parle de Tyson Fury, on parle d'enjeux financiers quand même conséquents.
Ouais. Et puis, il aurait du mal dans le village olympique.
Ça serait
compliqué. Je pense, ouais.
Je crois que le frigo, il n'y aurait pas les boissons que je désire dans le frigo.
Mais c'est cousin, hein,
il faudrait quelques tireuses à bière.
Hein. Estelle, tu nous as dit rapidement comme ça, non mais en fait, après les Jeux, je vais continuer ma carrière professionnelle. Ouais. Imaginons l'histoire magnifique, tu es championne olympique à Paris. Tu n'aurais pas envie d'arrêter là-dessus? Je veux pas te faire arrêter, hein, au contraire. Nous, on aime bien te voir sur le ring, mais c'est
surtout qu'elle a d'autres. On annonce une fin de carrière.
Non, pas du tout.
Mais c'est une autre boxe.
Tu vois ce que je veux dire? La boxe, c'est dur. Tu es double championne olympique. T'as autre chose dans ta vie. T'as déjà préparé
c'est
l'après.
C'est vrai. Alors, je dis pas que je continuerai 10 ans, mais d'accord, je continuerai quand même un peu parce que, quand je suis repassée sur les Jeux Olympiques, là, pour Paris, c'était en plein milieu d'une carrière. J'étais pas arrivée au bout de quelque chose encore. Donc, j'ai quand même envie de voir ce qui m'attend après un deuxième titre olympique.
Et puis derrière, il y a un autre métier qui t'attend. Tu t'es lancé dans la promotion de combat,
oui,
de boxe, c'est
complètement,
ça?
Complètement.
Alors, où tu en es de ce projet-là? Est-ce qu'il est déjà bien avancé? Est-ce que tu as déjà organisé des soirées? Et quel est ton but justement après ces organisations?
Bien sûr, j'en ai organisé deux déjà des soirées. La deuxième sur laquelle je n'ai pas boxé puisque je me suis blessée 2 semaines avant mon combat. Mais c'est quelque chose qui me plaît. Je pense à pouvoir amener une vision un peu différente que par rapport à d'autres promoteurs qu'on a en France. J'ai envie de rester un peu dans mon milieu quand même, la boxe, sans forcément continuer à être compétitrice, mais c'est une façon de rester dans mon milieu. C'est quelque chose que je maîtrise, que je connais, et puis je connais quand même beaucoup de boxeurs qui ont des attentes particulières, qui ont envie de faire et qui n'ont pas forcément la plateforme nécessaire pour s'exprimer comme ils le font.
Là aussi, quelle évolution, parce que les promoteurs de boxe, on les imaginait avec un chapeau avec des guns à la ceinture. Là, de voir une jeune femme organiser des combats de boxe, se mélanger à ce milieu très 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 masculin, là aussi c'est incroyable, cette progression.
Je suis mélangée à ce milieu depuis maintenant bientôt 20 ans, donc
depuis toute petite.
Ça commence à faire pas mal d'années.
Oui.
Non, mais voilà, c'est un milieu, je fais partie intégrante de ce milieu-là, je le connais, je l'ai côtoyé même à l'international, je suis partie m'entraîner 2 ans aux États-Unis. Je pense être légitime dans cette place-là de promoteur, et en plus j'en ai envie, donc
rencontré des canters ou des dunking?
J'ai pas rencontré Don King.
Aux États-Unis, dans ton milieu, la boxe,
complètement. J'en ai croisé d'autres. J'ai croisé Bob Arum, par exemple.
Bob Arum, pas mal, ouais. Ouais. Il a 92 ans, 93 ans. J'ai vu un papier, il est encore dans le coup.
Il est complètement dans le coup.
Incroyable,
complètement. Il sait très bien de quoi il parle.
Il était avocat, il a commencé à la fin des années 50, début des années 60. Ouais. En compte, il y a quelques lunes, il en a vu passer quelques-uns des boxeurs.
Complètement.
Ah ouais. Estelle, tu disais que tu étais légitime pour organiser des combats, mais tu étais légitime aussi pour être porte-drapeau, tu l'as dit, haut et fort. C'est vraiment un souhait, t'as vraiment envie d'être.
Ouais, c'est un souhait que j'ai, être porte-drapeau. Ça sera mes derniers Jeux Olympiques. Alors, si je peux faire tout ce que je peux lors de ces Jeux.
Il y a 1 million de personnes qui t'écoutent, là. Tu peux tout faire la promo, là. Vas-y, vas-y.
Finalement, c'est les athlètes qui voteront, hein. Donc, c'est un message passé aux athlètes. En tout cas, oui, ça sera un honneur pour moi d'être porte-drapeau parce que je reviens sur les Jeux pour ça. Pour partager mes expériences avec une team olympique, mais au sens large, pas que la boxe, la team avec tous les athlètes qui seront représentés. Et j'ai envie d'être avec eux, d'avoir ce rôle de leader et de dire, moi je viens pour gagner, pour un deuxième titre, venez pour la même chose, venez pour donner le maximum de ce que vous avez à offrir. Et vous êtes entraîné pendant de longues années, donc c'est pas pour rien.
Bravo. Estelle, j'ai deux questions sur ta préparation sur les jeux, parce que ça, en fait, ça arrive très vite, je te le rappelle.
Oui.
Déjà, comment va ton nez? Parce que tu n'as pas été autorisée à participer au championnat d'Europe.
Non, c'est pas que j'ai pas été autorisée du tout, il est pas mal, hein. On a bien rapistolé ça.
Tu t'es fracturé le nez.
Exactement.
Donc je me suis fracturé le nez. Comment ça se passe?
Je vais aux Europes. J'y vais. Pas pour boxer, puisque j'ai encore besoin d'avoir une certaine protection quand je mets les gants. Je vais faire du sparring avec d'autres athlètes, celles qui sortiront de la compétition.
Et donc ce tu sera vas boxer.
Très bien. Et puis observer. Je vais boxer. Et observer ce qui se passe. Et volontairement, j'ai pas envie de me dévoiler de trop à mon avis.
Quel a été ton modèle comme boxeuse?
Est-ce que j'ai eu un modèle comme boxeuse? J'en ai pas vraiment eu. Mais
Myriam Lamar a été une des premières connues.
Myriam Lamar a une belle carrière. Oui, complètement. C'est juste qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les Jeux. Qu'il y aurait eu les Jeux, ça aurait eu une dimension tout autre parce que c'est une fille qui en voulait, qui s'entraînait comme une dingue et qui avait ses qualités propres à elle. Mais il y en a eu d'autres. Hein. De toute façon, nous, on a eu la boxe qui a été intégrée aux Jeux sur le tard. Et c'est pour ça que le développement s'est fait aussi tard. C'est très lié, hein, le développement de la boxe féminine en France est très lié à l'arrivée des Jeux Olympiques finalement.
Tu en as vécu, quand t'es professionnel, tu gagnes de l'argent.
Oui.
Tu en vis correctement.
C'est pour ça que je suis passée professionnelle.
Ouais, pas
pour pouvoir en vivre. Je ne voulais pas passer professionnelle. Mmh. Pour moi, l'objectif c'était une médaille olympique. D'avoir eu la médaille olympique m'a apporté des possibilités et m'a permis d'avoir des contrats qui me permettent aujourd'hui de ne faire que de la boxe.
Voilà.
Je trouvais ça tellement fou de devoir faire un sport aussi dur et de devoir travailler à côté, de ne pas pouvoir faire que ça, alors qu'à l'international ça se faisait déjà. Aujourd'hui, il y a plein d'athlètes qui vivent que de la boxe.
En France, ça
a commencé.
Ton cas est rare.
Mon cas est rare, complètement.
Et je pense que
j'ai peut-être été la première à être dans ce cas-là, justement, de pouvoir vivre uniquement de mes combats, parce que j'ai été championne olympique.
Et Estelle, on est à 100 jours des Jeux à Paris, tous les athlètes ont ce problème à gérer de place, à donner aux amis et aux familles.
C'est l'enfer. Moi aussi, depuis hier, je suis sur le coup, là.
Lance un appel, encore une fois.
Je suis en train de stocker des places. Terrible.
C'est vrai, c'est une galère.
Ça coûte cher, hein, par contre. Oh là là, ça coûte cher, c'est terrible. Mais oui, c'est les places, c'est au-delà d'être une galère, c'est que on sait qu'il y aura du monde. Moi, je sais que le nombre de personnes autour de moi qui va venir déjà, rien que ça, pour avoir autant de places, c'est compliqué. Donc oui, c'est l'enjeu pour tout le monde de se sentir soutenu et de permettre à tous ceux qui
t'as
nous suivent.
T'as la possibilité d'en acheter.
J'ai la possibilité d'en acheter. On a des priorités. On a des priorités, mais c'est limité en termes de place.
C'est très réglementé et tu peux pas déraper.
On peut pas en acheter 40, quoi. Donc c'est limité et une fois qu'on a atteint le quota, on atterrit un peu comme tout le monde.
Est-ce que tes enfants viendront voir le tournoi de boxe?
Leurs places sont déjà assurées. Ça, c'est clair. C'est depuis longtemps. J'ai déjà assuré les places pour mes parents, mon frère, mes enfants. C'était primordial pour moi. Et puis, dès que je peux, je rajoute des places supplémentaires.
Il y a quelques semaines dans le Figaro. Vincent a cassé ses lunettes.
Mais non, Vincent
a un monocle.
6 lunettes par an, mais c'est pas possible.
Dernière question sur ta préparation. Il y a quelques semaines dans le Figaro, tu annonçais la couleur. Tu disais là je rentre au couvent. C'est-à-dire que pendant quelques semaines, j'évite de boire le petit verre de vin rouge de trop ou même un verre de vin rouge.
Je ne bois plus depuis le 2 janvier 2024. C'est terrible.
Quand on connaît la date précise, ça veut dire qu'il y a un petit manque quand même.
Précise.
Raconte-nous, est-ce que c'est un véritable effort là? Je suis sérieux parce que t'as une vie quand même. Voilà, tu boxes pas tous les jours. Ça se passe comment? C'est une souffrance ou tu le vis bien?
Non, c'est une façon d'être concentré dans ma préparation, de ne rien laisser au hasard. J'ai plus l'âge que j'avais en 2016. Il y a 8 ans qui sont passés. Il y a 2 grossesses qui sont passées. Donc je suis consciente que je dois être un peu plus exigeante.
Mais t'étais pas une pauvre non plus quand même.
Je préfère ne rien faire plutôt que de s'accorder de temps en temps et voilà, c'est vraiment pour moi c'est aussi un état d'esprit.
Je suis comme toi.
Vincent a arrêté depuis le 16 avril 2024.
Pour retenir la date, attention.
Merci.
Mais j'ai pas donné la date de fin. Normalement, jusqu'au 6 août.
Tu vas prendre une dégelée.
Merci Estelle. Bonne chance. Et donc la campagne pour le porte-drapeau, on rappelle.
On les doigts.
Votez Mosley. Hein. Tu te balades avec.
C'est un message donné aux athlètes. En tout cas, ils peuvent compter sur moi et j'espère que je
représenterai.
J'avais
pas que tu te présentais aux Européennes, je savais pas.
Merci Estelle. On va faire une heureuse. Estelle cherche des places, mais nous on en a des places.
Oui, on est gavé de places. Oui.